Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Attention, un académicien aujourd'hui, un vrai Jean-Christophe Ruffin est notre invité. C'est dans un instant. Nous lirons un roman culte, ensuite Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Nous visiterons une bibliothèque, celle de l'éditeur Jean-Loup Chifflet. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours. Et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse, évidemment. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Mon invité est médecin, diplomate, mais écrivain d'abord. Il a reçu le prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil. On lui doit aussi Immortelle Randonnée, Le Collier Rouge ou Le Tour du Monde du Roi Zibeline. Il est académicien aussi et depuis quelques romans, il s'amuse avec Aurel Timescu, un consul, un diplomate un peu gauche qui joue les détectives. Il se situe entre Colombo, Monk et Inspecteur Gadget. Sa nouvelle aventure vient d'être publiée chez Flammarion. La princesse au petit moi, c'est son titre. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Nicolas.
Alors, on a suivi déjà Aurel Timescu. On dit Timescu ?
Oui, Timescu, Timescu, comme vous voulez.
À Conakry, en Azerbaïdjan. Cette fois, ça démarre à Paris. Il est ravi parce que, écrivez-vous, c'était un fonctionnaire calamiteux, mais titulaire. Il était condamné à enchaîner les postes subalternes et ingrats. Et là, donc, il est entre deux missions au Quai d'Orsay. Il n'a rien à faire. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est justement ce qu'il préfère, ne rien faire.
Ah oui, oui, il est même doué pour ça. Hein. C'est ça, on ne dirait pas que c'est sa vocation. Malheureusement, il doit gagner sa vie. Alors, il est, voilà, il est diplomate, puis il sait qu'on va l'envoyer encore dans un pays difficile, dans un poste un peu...
Et ça peut durer longtemps, ces périodes de vacances, quand on est diplomate ?
Normalement, non, mais ça dépend. Ça dépend de l'humeur de la DRH. Voilà. Et là, il se doute qu'on ne va pas tarder à le renvoyer dans un endroit difficile.
Parce qu'il est nul.
Parce qu'il n'a jamais voulu bosser, quoi. Il est devenu diplomate parce qu'il fallait qu'il gagne sa vie. Il ne pouvait pas rester pianiste dans des bars toute sa vie. Et voilà, mais en même temps, c'est vraiment un calvaire pour lui. Quoi. Mais c'est un calvaire aussi pour le Quai d'Orsay, hein, je vous rassure.
Bon, mais ça ne dure pas très longtemps, puisqu'au bout d'une semaine, il est contacté par une femme qui le déniche dans son petit hôtel parisien. Elle vient de la part du prince Rupert, à la tête de la principauté de Starkenbach. Il n'y a qu'Aurel qui peut l'aider, la princesse Hilda a disparu. Aurel est chargé de la retrouver. Déjà, c'est étonnant qu'on fasse appel à lui, d'autant qu'il apprend que c'est Neuville, un ambassadeur qui, pensait-il, le détestait, qui l'a recommandé au prince. C'est quoi cette principauté de Starkenbach ? On peut la trouver ? C'est dans les Alpes.
Alors, on peut la chercher. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la trouver, mais elle ressemble à pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a des principautés en Europe, des micro-États, comme on dit, il y en a quelques-uns. Alors, bon, je pense qu'on peut peut-être, compte tenu de sa localisation géographique, se dire qu'on n'est pas très loin du Liechtenstein, vous voyez, enfin, c'est un petit peu dans cette ambiance-là. Mais je ne voulais pas en nommer un, parce que c'est toujours compliqué de... Je préférais faire créer un État qui soit un peu la quintessence de tous ces micro-États européens.
C'est un peu le fantasme de la Moldavie, du sceptre d'Ottokar, voilà. Et tout ça. Créer un pays quand on est écrivain, c'est voilà. Quand même ça, ce qui est génial, le côté démurge, quoi. La Cile d'Avis.
Oui. Oui, parce que la Cile d'Avis de Tintin, finalement, tout le monde a l'impression de l'avoir visité. Parce que ces pays imaginaires ne le sont pas vraiment, en fait. Ce sont des... Comment dirais-je ? Des leurs un peu, mais on voit bien que derrière, il y a une réalité. Hein, et le Starkenbach n'existe pas tel quel dans les livres de géographie, mais enfin, il existe quand même. Il existe quand même.
C'est un peu de Monaco, un peu d'Andorre, un peu d'Intel,
Voilà. Il y en a cinq hein, en Europe. Il y a le Vatican, bon, qui est un peu particulier. Mm-hmm. Il y a Andorre, Saint-Marin, Monaco et Liechtenstein. Et bon, il y en a un sixième maintenant, c'est le Starkenbach.
Alors, Aurel accepte, surtout parce que c'est bien payé. Il arrive au palais, mais il n'a pas les codes. Pas les codes du tout. Pourtant, c'est un diplomate. Il devrait connaître tout ça. Il y a un moment où il s'assoit en face du prince. Il ne sait pas s'il doit croiser les jambes ou pas. Il sait qu'il y a une règle. Ouais. Il sait qu'on lui a apprise. Mais il ne se souvient plus. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de choses ?
Oui, c'est très amusant parce que y a en effet une règle. Enfin, normalement, si on veut se tenir bien, pendant, par exemple, des visites officielles, il faut rester sans croiser les jambes. Bon. Et moi, j'étais en poste au Sénégal. Les Sénégalais faisaient très attention à ça. Ils sont très, très pointilleux sur cette étiquette. Mais les Français, ils ont un petit peu oublié comment ça marche. Et alors, on en voit qui croisaient Jean-Pierre, ils se disaient, ça ne doit pas être ça. Non, alors, voilà. Et Aurel, bon, bah, vous savez, il n'a pas les codes parce que d'abord, là, il faut avoir doublement les codes. Il faut avoir les codes de la diplomatie, mais il faut avoir les codes de ces petits États qui ont chacun leur étiquette particulière et tout. Et lui, bah, il rame un peu au début. Mais à la fin, il va très bien s'y faire. Hein. Mais enfin, au début, il se dit, il faut que j'ai un langage fleuri, il faut que je fasse le petit doigt, laver le petit doigt en buvant sa tasse. Puis après, il se rend compte que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, qu'il y a autre chose derrière, et il va comprendre. Il va comprendre. Mais ça lui prend un peu de temps.
Je sais que dans les pays arabes, il ne faut pas croiser les jambes parce qu'on montre la semelle de sa chaussure et c'est considéré comme une insulte. Ah oui. Vous, quand vous étiez en poste, je vous imagine plutôt décontracté sur le protocole, c'est-à-dire je me trompe, je ne me trompe pas, j'essaie de faire mon mieux, mais enfin bon.
Non, je crois que j'ai fait très attention d'abord parce que je recevais beaucoup de monde dans la résidence et il y a tout un protocole qu'on paye d'une certaine manière parce que si vous mettez le prélat un peu trop loin, l'ambassadeur truc de représentant machin, il vous en veut à mort. Hein. Donc vous en fichez, vous pouvez vous en ficher, mais pas eux. Donc il faut faire, ne serait-ce que par égard pour les autres, et surtout si vous ne voulez pas d'ennuis, il faut faire quand même très attention. Donc moi j'avais appris tout ça, et c'est vrai que, bon, simplement il faut avoir un certain détachement. C'est-à-dire qu'après, si vous venez dîner chez moi, je vous mettrai n'importe où, ça c'est sûr. Mais dans une ambassade, on s'attend quand même à ce que ça soit réglé.
Voilà. Mais moi je suis capable de vous en vouloir aussi, attention. Hein.
Non mais je ne vous mettrai pas la cuisine. Hein.
Pourquoi vous avez situé cette nouvelle aventure dans un micro-État ? D'habitude, c'est des États d'ailleurs réels et plutôt vastes. Qu'est-ce qui vous fascinait là-dedans, dans ce micro-État ?
Mais d'abord, je voulais renverser un peu la perspective. Aurel, on l'avait toujours vu dans des pays difficiles, dans des pays qui étaient aux antipodes de ses origines. Lui, il vient d'Europe centrale. Il est vraiment l'héritier de ses traditions d'Europe centrale, très fort, de littérature, de musique, etc. Et quand il est en Afrique, bon, il a trop chaud, il a l'impression qu'il n'est pas chez lui. Quoi.
Il est toujours son par-dessus, d'ailleurs.
Voilà, et là, on renverse les choses, et en allant, évidemment, toujours trop loin, parce que Aurel, c'est un ascenseur qui ne s'arrête pas à l'étage, il est toujours au-dessus, en dessous. Enfin, et là, il est en dessous, c'est-à-dire que là, lui qui a toujours eu envie d'étiquette, d'une certaine forme, côté formel, là, il en a trop, parce qu'il a les portraits des ancêtres, les uniformes d'apparat, les valets de pied, etc. Alors là, il est perdu. Donc, c'était une manière de le bousculer un petit peu et puis de l'agiter dans un autre sens. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre, c'est parce que je trouve très, très fascinant, moi, la survivance en Europe de ces régimes comme ça, de principautés, de monarchies, etc., qui ont tous d'ailleurs leurs traditions différentes. Mais c'est quand même extraordinaire au XXIe siècle d'avoir des territoires comme ça, avec vraiment un maître et des sujets, quoi, parce que c'est comme ça dans certains de ces États. Et tout aurait dû les faire disparaître. Je veux dire, la politique, la géopolitique, les guerres, tout ça, ça aurait dû les balayer. Ben non, ils sont toujours là.
Et qui copient tous, plus ou moins, Louis XIV, d'ailleurs.
Voilà. Absolument, parce qu'ils sont très attachés à ces formalités, à ce côté formel des cours princières. Et alors, il y a toute une hiérarchie, parce qu'évidemment, quand ils rencontrent la reine d'Angleterre, ben, c'est un peu les derniers de la classe, parce qu'ils ont un tout petit territoire et tout. Bon, et la reine d'Angleterre, elle les traite un petit peu de haut. Mais ça ne fait rien, c'est la même chose. En réalité, c'est la même famille, avec les mêmes contraintes, les mêmes codes, les mêmes difficultés. Et ça me fascinait. Je me disais, mais qui sont ces gens-là ?
On se sert un verre de Tokay et on retrouve Aurel dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Jean-Christophe Ruffin qui publie la nouvelle aventure de son héros Aurel Timescu, La princesse au petit mois. C'est chez Flammarion. Je me rends compte, Jean-Christophe Ruffin, que bah, moi je le connais et donc j'ai oublié de présenter à ceux qui ne le connaissent pas ce héros Aurel qui est toujours mal sapé, mal coiffé, toujours. C'est même pas mal sapé, c'est-à-dire que c'est pas juste qu'il n'est pas élégant, c'est qu'il ne s'est même pas adapté au climat ou à la circonstance de l'événement.
C'est surtout ça, c'est que lui, il pense qu'il est très élégant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de négligé, il fait des efforts, mais il fait des efforts pour ressembler à ce qui lui semblait être l'élégance quand il était jeune en Roumanie à l'époque de Ceaușescu, puisqu'il est né dans la Roumanie communiste de Ceaușescu. Il a même été en prison à un moment donné. Puis il l'a quitté parce que sa famille l'a racheté à l'ouest. Là, il a fallu survivre. Et comme il savait juste faire du piano, mais c'était pas non plus un virtuose. Il a joué dans des bars, voire un peu plus, jusqu'à ce que à la faveur d'un mariage, très éphémère d'ailleurs, il acquiert la nationalité française, il passe un petit concours et le voilà diplomate. Alors, c'est ce Roumain avec un gros accent devient diplomate, mais évidemment pas un diplomate de premier plan, un petit consul, mais de tout à fait de deuxième zone. Et il se raccroche évidemment à ce qui lui paraît être la bonne éducation. La bonne éducation pour lui, c'est les films qu'il voyait, les films français des années 30 qu'il voyait à Bucarest quand il était petit. Et donc, il s'habille ben, comme Jean Gabin ou comme... Vous voyez, évidemment, au fond d'Afrique, ça ne va pas du tout. Quoi.
Et alors, depuis le premier épisode, il est en couverture. C'est-à-dire qu'il y a, ça doit être un comédien, j'imagine,
ouais.
Qui a des faux airs de John Malkovich, d'ailleurs, mais qui joue le rôle d'Aurel en couverture, en photo sur la couverture. Et donc, on le lit, c'est-à-dire qu'on ne s'en fait pas une image mentale d'un héros littéraire habituel, mais là, ça correspond.
Oui, bah, on a pris cette option parce que, si vous voulez, au début, vous savez, moi, j'ai commencé comme un divertissement, qui n'est jamais gratuit d'ailleurs, parce que on explore un problème du monde contemporain finalement. Mais enfin quand même, on est à la remorque d'un petit personnage drôle, qu'on veut sympathique, qui j'espère l'est, qui en tout cas s'est attaché beaucoup de lecteurs. Et on s'est dit que la meilleure façon de montrer ce qu'on voulait faire au début, parce que quand j'ai commencé, les gens me disaient « mais c'est quoi ?» Ben, c'était de le représenter. Donc il est là. Alors d'habitude, on le voyait de dos, là on commence à voir un peu sa bouille. On l'a fait poser, et c'est drôle parce qu'il s'est vraiment...
Vous l'avez rencontré, vous le connaissez ?
Oui, bien sûr, mais moi je vais aux séances de pose du comédien quand on le prend pour les couvertures. Oui. Alors là, il fallait qu'il fasse un baise-main, parce qu'évidemment, l'idée, c'était de le situer dans un cadre princier, et puis qu'il fasse un baise-main à cette princesse ben, qu'il va chercher et qu'il va trouver, et dont il va nous faire comprendre qui elle est.
Alors, il doit retrouver la princesse Hilda qui a disparu, un personnage assez particulier aussi, cette princesse.
Eh oui, bah, parce que justement, là, on entre vraiment au cœur de ce qui fait ces séries d'Aurel. C'est-à-dire que, d'abord, il y a l'intimité, c'est-à-dire, voilà, c'est une personne, simplement, avec sa vie, avec tout ça. Mais après, derrière, il y a aussi une sorte de drame qui est le drame de ces, là, en l'occurrence, de ces monarques qui sont enfermés, qui sont paillés dans des rôles très, très protocolaires, mais qui ont une autre vie, et surtout d'autres aspirations. Parce que vous vous rendez compte ce que c'est, toute votre vie, ça va 5 minutes, hein, ça va 2 jours, 1 mois, d'aller manger dans de la vaisselle en vermeil, etc. Bon, c'est très bien. Mais elle a une autre vie, une autre origine. Et en fait, on ne peut comprendre cette fuite, cette disparition, et donc tout ce qui va faire la matière de l'enquête d'Aurel, qu'en se référant à son histoire, à elle.
Et pour le prince aussi, au fur et à mesure du roman, l'image se craquelle un peu. Mais évidemment, on ne peut pas trop en dire. Il y a aussi un autre personnage féminin qui est Shaina. Mmh. Et Aurel tombe plus ou moins amoureux d'elle. Quoi. Enfin, en tout cas, il y a une fascination.
Ben oui, ben, faut dire qu'elle est fascinante. D'abord, elle est imposante, elle est massive. C'est une grande femme, un peu en masse, comme ça. Elle a survécu à tout, puisque c'est une réfugiée syrienne qui a été... une kurde qui a été torturée, qui s'est enfuie, enfin bref, donc elle a tout vu. Donc c'est un peu un panzer, si vous voulez, elle est très forte. Et Aurel, ça le fascine, parce que lui, petit bonhomme qui a toujours peur de tout, ben là, il va, au fond, oui, c'est une fascination. Alors amour, peut-être. Mais elle chante avec la voix d'Elvis Presley, vous voyez, c'est quand même compliqué, parce que lui, il joue du piano, et d'ailleurs, il y a une espèce de communion autour de la musique avec elle, parce qu'il joue du piano et elle va chanter des mélodies d'Elvis.
Et puis c'est un langage aussi, puisque vous écrivez comme elle parle, c'est-à-dire « moi occupé de lui, fini rigoler ».
Ah ben elle ne connaît que les infinitifs, elle ne conjugue rien, elle s'en fout complètement.
C'est assez jouissif quand on est écrivain, pour construire ces dialogues-là.
Bah, surtout ce qui est amusant, c'est qu'elle est persuadée, par exemple, elle dit « je voudrais te tutoyer ». Parce que c'est plus facile. Alors, elle dit oui. Et alors, au lieu de dire vous venir, elle dit tu venir. Et voilà, c'est pas pour ça qu'elle va conjuguer. Mais moi, ce que j'aime, c'est les personnages solaires, ces personnages qui vous emportent. Et elle est forte. Quoi, voilà. Et là, Aurel est presque dans son ombre à certains moments. En tout cas, il forme une sorte de couple, si je puis dire, entre le yin et le yang, quoi, la force et la faiblesse. Mais je trouvais qu'ils allaient bien ensemble.
Alors, vous savez, moi, mon grand truc, c'est de savoir de qui précisément tel et tel personnage a été inspiré. J'ai même écrit un livre sur le sujet. Si Simenon s'était inspiré du commissaire Guillaume, Conan Doyle s'était inspiré de son prof de médecine. Est-ce que vous pourriez nous révéler, ici, en exclusivité à Europe 1, qui a inspiré Aurel Timescu? Et ne dites pas tout le monde des personnes.
Non, non, mais vous avez... En fait, vous avez raison. Mais la grande différence avec Conan Doyle et Simenon, c'est que je suis vivant et le modèle aussi.
Ah oui.
Donc, si vous voulez, c'est un petit peu tôt.
Il le sait ou pas ?
Oui, il le sait. Il le sait. Il le sait. Il le sait et beaucoup de gens le reconnaissent en plus. Oui. Mais moi, je trouve que c'est un hommage que j'ai rendu à ce personnage et à cette personne.
Bah oui.
Mais... C'est Aurel, donc il ne le voit pas forcément comme ça. Voyez. Alors,
il joue du piano, il boit du toquet.
Absolument.
Ah, les deux. Parce que c'est ça, en fait, un personnage récurrent. Il faut lui trouver... Est-ce que vous avez, quand vous l'avez construit, bon, vous vous êtes inspiré de ce personnage-là, mais vous vous êtes dit, alors, il faut une boisson comme James Bond du Martini,
non,
il faut le piano, etc. Non, c'est, tout était là.
Non, non, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un destin. C'est-à-dire que c'est un destin... D'abord, je trouvais que le personnage d'un consul, c'était très, très riche, parce que dans le métier diplomatique, le consul, c'est celui qui est en prise avec les choses les plus humaines, avec les problèmes les plus humains. C'est lui qui va s'occuper des gens qui se font, des Français qui vont se faire agresser dans la rue, qui vont perdre leurs papiers, qui vont être pris en otage. En tout cas, c'est le consul, bon, en prison, etc. Donc, il a un rôle central. Et puis, d'autre part, ce personnage spécifique, c'est-à-dire cet homme qui représente la France sans être français, au départ, qui a un gros accent, quand il dit « je suis consul de France bon, », c'est un petit peu ridicule, et en même temps, c'est touchant, parce qu'il représente la France encore plus, j'allais dire, qu'un Français de souche, parce qu'il est très fier de ça, il a rêvé de la France, et puis, voilà, il l'a, quelque part, il l'incarne, si vous voulez. Donc, je trouvais qu'il y avait là matière à quelque chose de très riche. Je ne savais pas si on pourrait le tirer dans d'autres aventures, quand j'ai commencé la première, et aujourd'hui, je me rends compte que je vis avec. Quand je voyage, j'emmène Aurel. Voilà. Donc, j'arrive dans un pays un peu voilà, nouveau pour moi. Je rencontre des gens, etc. Et j'imagine qu'Aurel est avec moi.
Et est-ce que vous avez peur du syndrome de Sherlock Holmes où Conan Doyle en a eu vraiment marre de son héros, il a fini par le tuer et est obligé de le ressusciter ensuite à cause du public qui réclamait son retour?
Bah,
il vous encombre pas encore.
Pour l'instant, j'en ai pas marre. C'est vrai que là où ça pose un vrai problème, si vous voulez, c'est que je ne fais pas que ça. J'écris d'autres types de livres. J'écris des livres plus qui sont dans le cadre d'une œuvre différente, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile de mener d'un côté un feuilleton comme ça, une série, et d'autre côté d'autres livres. Mais bon, pour l'instant, je n'ai aucune envie de meurtre vis-à-vis d'Aurel.
La princesse au petit mois chez Flammarion, c'est la nouvelle aventure d'Aurel Timescu. Vous restez avec nous si vous voulez bien, Jean-Christophe Ruffin, dans un instant. C'est le livre culte et puis je l'ai choisi pour vous.
La Voix est livre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est livre, toujours avec Jean-Christophe Ruffin pour sa nouvelle aventure d'Aurel Timescu. Il est l'heure de lire un livre culte. Je l'ai choisi pour vous aujourd'hui, Jean-Christophe Ruffin. Il s'agit du célèbre Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, l'histoire de Phileas Fogg, un gentleman anglais qui fait un pari avec les membres de son club, faire donc le Tour du Monde en 80 jours. Il parie toute sa fortune, mais il a bien calculé son coût. Il part avec son valet Passepartout. Et ils vont vivre des aventures incroyables en passant par l'Inde, Hong Kong, San Francisco, etc. L'idée, c'est de partir tout droit et de revenir au même point. La Terre est ronde. Mais bien entendu, Phileas Fogg et Passepartout peuvent emprunter n'importe quel moyen de transport pour y parvenir. C'est même le but. Le roman est publié en 1872. C'est la révolution industrielle et l'avènement des transports à grande vitesse, en tout cas beaucoup plus rapide que les chevaux. Tout Jules Verne y est, l'aventure, mais aussi la science. Voici la première page lue par le non moins gentleman, Philippe Dussault.
Chapitre 1. Dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement, l'un comme maître, l'autre comme domestique. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row Burlington Gardens, maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habitée par Phileas Fogg, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semblât prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. À l'un des plus grands orateurs qui honorent l'Angleterre, succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galantôme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. On disait qu'il ressemblait à Byron, par la tête, car il était irréprochable quant aux pieds, mais un Byron à moustache et à favori. Un Byron impassible, qui aurait vécu 1000 ans sans vieillir. Anglais, à coup sûr, Phileas Fogg n'était peut-être pas londonneur. On ne l'avait jamais vu ni à la bourse, ni à la banque, ni dans aucun des comptoirs de la cité. Ni les bassins, ni les docks de Londres n'avaient jamais reçu un navire ayant pour armateur Phileas Fogg. Ce gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration. Son nom n'avait jamais retenti dans un collège d'avocats, ni au Temple, ni à Lincoln's Inn, ni à Gray's Inn. Jamais. Il ne plaida ni à la cour du chancelier, ni au banc de la reine, ni à l'échiquier, ni en cour ecclésiastique. Il n'était ni industriel, ni négociant, ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait partie ni de l'institution royale de la Grande-Bretagne, ni de l'institution de Londres, ni de l'institution des artisans, ni de l'institution Russell, ni de l'institution littéraire de l'Ouest, ni de l'institution du droit, ni de cette institution des arts et des sciences réunies qui est placée sous le patronage direct de sa gracieuse majesté. Il n'appartenait enfin à aucune des nombreuses sociétés qui pullulent dans la capitale de l'Angleterre. Depuis la société de l'harmonica jusqu'à la société entomologique, fondée principalement dans le but de détruire les insectes nuisibles. Phileas Fogg était membre du Reform Club. Et voilà tout.
C'était la première page du Tour du Monde en 80 jours, lue par le globe-trotteur Philippe Dussault. Jean-Christophe Ruffin est toujours avec nous. Et Jean-Christophe Ruffin, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez préfacé la version manuscrite du Tour du Monde en 80 jours aux magnifiques éditions des Saint-Père qui font des facsimilés comme ça, des copies parfaites des manuscrits. Pourquoi ils vous avaient appelé, vous? Qu'est-ce qui vous fascine chez Jules Verne et dans ce livre-là en particulier?
Je ne sais pas pourquoi ils m'avaient appelé, mais c'est vrai que ce livre me tient particulièrement à cœur. C'est peut-être parce qu'ils le savaient. Non, ce que je trouve très intéressant, c'est de comprendre que 80 jours aujourd'hui, c'est beaucoup pour faire le Tour du Monde. Parce qu'on peut le faire en une demi-heure dans une fusée, dans un satellite. Mais à l'époque, c'était un basculement complet. Et c'était l'entrée dans une nouvelle ère avec le fait que la Terre était entièrement enserrée par un réseau comme ça, de chemins de fer, de bateaux, etc. Et avec quelque chose qui est très présent dans le roman, c'est les horaires. Il est tout le temps en train de regarder les horaires, à quelle heure va partir tel ferry, etc., tel train, etc.
D'ailleurs, l'horaire joue un rôle très, très important très dans important, l'intrigue, surtout à la fin.
Absolument. Et il y a tous les ressorts d'une sorte de théâtre, presque de pantomime, en fait, avec notamment le valet, le passe-partout, etc. Et en même temps, on est dans un autre monde qui est le nôtre. Et ça, peut-être qui a été le nôtre, parce que je ne sais pas si on gardera, comme disait le maire de Poitiers, un imaginaire aérien, mais en tout cas, on gardera certainement un imaginaire à travers les chemins de fer, à travers les bateaux, etc. Et là, d'une certaine façon, Jules Verne est le témoin de ce qu'il a sous les yeux, et même un peu avant, puisqu'il est un peu au-delà, puisqu'il voit arriver ce monde moderne, ce monde qui est entré en suspension avec le Covid. Et nous c'est le contraire. On s'est rendu compte que ça existait quand ça s'est arrêté.
À suivre, visite de bibliothèque, nous partons chez l'éditeur Jean-Loup Chifflet. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
La Voix est libre continue. Nouvelle page. Nous partons rendre visite à l'éditeur Jean-Loup Chifflet. Il publie le magazine pittoresque de la littérature française chez Plon. Grand éditeur, mais auteur prolifique aussi. Il est connu du grand public depuis son best-seller Sky My Husband, où il s'amusait à traduire littéralement toutes les expressions françaises. Direction sa bibliothèque. Bonjour Jean-Loup Chifflet.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous.
Ouais, c'est un plaisir. Hein. Les sans-abri, chez moi, il n'y a pas de problème.
C'est vrai qu'on est un peu SDF avec Fabien Duchesne, le lingesson. Oui. On va de bibliothèque en bibliothèque. On cherche des refuges comme ça dans les livres.
Mais vous êtes chez vous.
Je ne suis pas surpris. Vous êtes un grand éditeur depuis 40 ans, 50 ans. C'est une maison faite de livres. En fait, les murs sont des livres.
Oui.
Un peu partout. Là, on est dans la grande pièce, dans le salon. Quoi.
Oui.
Et puis, il y a un petit couloir rempli de livres aussi qui mène à votre bureau rempli de livres aussi.
Oui.
Et voilà l'appartement complet.
L'appartement complet. Il y a même un petit étage avec une chambre. Oui, il y a un étage avec d'autres livres. Et c'est vrai que je suis éditeur depuis 50 ans. Donc...
Justement, comment ça a démarré? Je crois que vous avez une histoire un peu particulière avec votre arrivée dans le monde de l'édition il y a 40 ans, 50
oui,
ans.
Oui, c'est assez... Alors, je suis né à Lyon il y a longtemps. Et puis, dans une famille bourgeoise lyonnaise, j'ai été très heureux. J'ai écrit d'ailleurs mes mémoires de petit garçon à Lyon, ça s'appelle Ainsi gentil petit garçon. Et puis j'ai un petit peu, je devais être en deuxième année de droit à Lyon, pour une histoire amoureuse, je crois, j'ai décidé de partir à l'aventure. Je suis parti à la Nouvelle-Orléans pendant un an. Et je dois dire que j'ai tout appris, et essentiellement l'anglais surtout. J'en ai bavé.
Sky My Husband, ça vient de là?
Ça ne vient pas tout à fait de là. Ça vient d'un congrès. Ça vient de plus tard, d'un congrès au Japon. Je vais vous dirai en deux mots pourquoi. J'ai passé un peu plus d'un an à Nouvelle-Orléans. Je suis revenu sur le France, je me souviens, j'avais gagné ma vie, j'étais garçon de café à Nouvelle-Orléans. En même temps, je faisais des études à l'université de Tulane. Et puis, je suis rentré à Lyon, on a tué le Vaugras, j'étais donc dans une famille bourgeoise, j'étais destiné à aller être un cadre sympathique, dynamique et bourgeois dans les soirées lyonnaises familiales. Et puis, le hasard a fait qu'avant de partir... Avant de partir à la Nouvelle-Orléans, mon père, qui était avocat, était l'avocat d'un éditeur qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Charles Ringot, qui a été le fondateur des éditions du Rocher, d'ailleurs, parce qu'il était monégasque. Il a été patron de Plon et très gentiment, avant de partir prendre l'avion à Paris, je suis allé chez lui, il m'a reçu, il m'a dit « Jeune homme, téléphonez-moi quand vous rentrerez ». Je n'ai pas osé lui téléphoner quand je suis rentré. Et j'étais sur le point, je me souviens très bien, c'était un lundi, de signer le lendemain, un mardi, je venais de rentrer, donc Vaugras et tout et tout. Et il a appelé mon père en disant « Est-ce que votre fils est rentré ?» Il dit « Bah oui, il vient de rentrer. » Parce qu'il y a une personne assez originale chez Hachette, nous sommes en 67, je crois, 66-67, qui cherche un jeune homme qui parle bien anglais. Je ne me suis pas fait dire deux fois et je suis parti. Et grâce à elle, c'était un nouveau métier, c'était la vente des droits étrangers. Donc elle m'a fait voyager dans le monde entier et j'ai adoré ce métier et je suis donc rentré chez Hachette. C'était très intéressant parce que celui qui m'a engagé à l'époque, c'était Bernard de Fallois, qui est mort il n'y a pas longtemps et qui était un personnage important. Voilà, comme ça, je suis devenu... non pas éditeur, mais dans un premier temps, mais commercial étranger.
Alors, ils sont classés par éditeur, forcément, vous êtes éditeur.
Oui,
est-ce que c'est pour
classé.
Ça
alors,
ou c'est
je
parce que
dire
c'est plus
que j'ai plus... C'est mon
il y a la blanche, il y a minuit, il y a Grasset.
J'aime beaucoup Grasset, j'ai un faible pour Grasset, parce que Olivier Nora est un... Je l'ai connu tout petit, j'allais dire, et je viens de terminer... le livre de Pierre Nora, Jeunesse, que j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que quand j'ai été nommé finalement directeur de du département étranger d'Hachette, Simon Nora, qui était un homme assez exceptionnel, était mon patron. Et Pierre Nora, son frère, dans son livre qui vient de sortir, Jeunesse, en parle beaucoup de l'admiration qu'il avait pour Simon Nora. Et j'ai un souvenir... Quand Simon Nora est mort il y a quelques années, j'ai envoyé un mot à son fils, Olivier, en lui disant « Ton père était... » C'est vrai, c'était un homme extraordinaire. On a fait plusieurs voyages à New York ensemble. Et un jour, Simon Nora, moi qui suis Bac plus 2, m'a dit un jour sur la 5e avenue « Dites-moi, Jean-Loup, vous êtes de quelle promotion de l'ENA ?» C'est un souvenir qui m'avait...
Pourquoi
beaucoup...
Parce qu'il était persuadé que vous aviez
oui,
fait
l'ENA. Oui, il était persuadé que j'avais fait l'ENA, vous vous rendez compte.
On avance un peu, il y a le couloir là qui est donc encombré par une longue étagère basse avec un train et encore des figurines dessus,
oui,
des Tintins.
Des Tintins, tout ce que je trouve un petit peu au gré de mes des puces et autres les autres marchés.
Là, ce sont les poches. Alors, et là, ça, il y a toute la collection des
oui,
Nelson.
Alors, il n'y a pas toute la collection, mais c'est une collection que j'aime beaucoup. Hein, c'est des grands, c'est ouais. les classiques de l'époque. On a, par exemple, là, je tombe sur Calix. Ah, bah oui, ça tombe très bien. C'est Calix, c'est l'histoire, la fameuse collection Nelson. Calix, c'est l'histoire d'un bourgeois lyonnais dans les années que les Lyonnais connaissent bien, dans les années des années 30. Donc, c'est quand même classé par éditeur.
Juste
par
pour
genre.
Dire, la collection Nelson, ce sont des formats poche, mais très luxueux en fait,
oui,
avec une couverture rigide, très jolie.
Ce sont des collecteurs.
C'est années 30, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, absolument. Alors, ça, c'est. À portée de, comme vous pouvez le voir, c'est en hauteur. C'est ma collection, un petit, comme tout le monde, un petit peu érotico-dramatique, où j'ai, entre autres, mais on ne peut pas les atteindre, mais parce que ça va les abîmer, mais ma collection de Paris-Hollywood. Je suis d'une génération Paris-Hollywood. C'était des fascicules de femmes en tenue légère et pas plus. Hein. Mais c'est vraiment les souvenirs des premières émotions érotiques quand on a 15 ans dans les années 50 et quelques. Voilà. Mais autrement, là, je suis très, très bien pour travailler.
Et c'est quoi ce vieux téléphone, là ?
Alors, par exemple, ça, ce vieux téléphone, je l'ai acheté dans une brocante à côté de chez moi. Il ne marche pas, bien sûr, mais je trouve ça assez émouvant. Dans les objets un petit peu... oui, alors j'ai beaucoup de... On le verra dans l'autre pièce, j'ai des soldats de plomb, j'aime beaucoup aussi les maquettes de bateaux. Et voilà, donc c'est un heureux mélange de mes passions. Là aussi, voilà encore un truc qui a été un des grands succès de mon existence.
Les cahiers de vacances pour adultes.
Oui, je prétends être l'inventeur des cahiers de vacances pour adultes. Il y a une dizaine d'années dans le groupe Hugo et compagnie. On a été copié.
Il faudrait se lever tôt pour que j'achète ça, moi. Enfin, bon. Tant mieux si ça.
Mais ça, je peux vous l'offrir.
Ah, mais non, même... surtout pas. Surtout pas.
Et ça a très bien marché. On en a fait beaucoup.
C'est de la culture générale, en fait, l'exercice.
On a été copié, cahier de vacances pour adultes. Vous voyez. On a été copié par 17 éditeurs qui ont eu le culot, dont les éditions First à l'époque, mais on est devenus très copains.
Vaut mieux faire envie que pitié.
Voilà. Et puis il y en avait, j'ai fait faire des couvertures par Cabu parce que j'avais un gros faible pour Cabu. J'ai fait ce livre Roger au pays des mots avec lui. C'est Mots et compagnie, c'était le nom de ma société avant Chifflet et compagnie. Et Cabu, ça c'est un peu un j'ai écrit le texte, mais c'est un peu un collecteur parce que Cabu en couleur c'est assez rare. C'était vraiment un type absolument génial qui avait. Qui était surtout un type extrêmement gentil.
Merci Jean-Louis Chifflet.
Merci.
Pour cette visite.
Ben c'est gentil. Revenez quand vous voulez. Il y aura toujours un bon
musée des livres. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup. À bientôt. Merci.
Retour en studio et je rappelle le titre du dernier livre de Jean-Louis Chifflet, Le magasin pittoresque de la littérature française, c'est chez Plon. Et chez vous, Jean-Christophe Ruffin, ils sont classés comment les livres ? Est-ce qu'ils sont classés d'abord ?
Non, pas du tout. Ils ne sont pas du tout classés. C'est terrible d'ailleurs. Parce qu'en fait, je ne suis pas venu à l'écriture par la lecture, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait des études de lettres, j'ai fait un tout autre métier, qui était la médecine. Et au fond, ce n'était pas naturel chez moi tellement d'avoir sous les yeux comme ça, des références précises, comme ont certains de mes amis universitaires ou autres. Donc, j'ai des livres que... Alors, il y a certains livres qui sont précieux, parce qu'ils sont des livres anciens, etc. Ceux-là sont à peu près bien classés, parce qu'ils ont une certaine valeur, j'allais dire, en tant que tel, et en tant qu'objet, si je puis dire. Et puis, sinon, il y a tout le reste, quoi. Alors, le reste, il se trouve que, aussi, je fais partie de beaucoup de jurys, prix interalliés, Grand Prix du roman de l'Académie française, prix de Monaco, etc. J'aurai un prix orange du livre. Donc, je reçois pour ça plein de livres. Et alors là, c'est terrible, parce que c'est terrible, parce que si vous voulez, j'y arrive pas. Voilà, je suis.
Et pourquoi donc... vous faites partie de ces prix alors ? Ben, enfin, à l'Académie, vous êtes un peu obligé, mais.
Ben, l'Interlié, c'est une bande de copains, et je trouve que j'ai plaisir à y être. Bon, l'Académie, ben, c'est normal, puisque oui. Monaco, ben, je ne sais pas. Vous voyez, c'est pas si inutile, puisqu'au fond, ça m'a conduit à écrire sur des principautés. Bon, Mais je vais essayer d'en éliminer, vous avez raison. Je vais essayer d'en éliminer, parce que...
Ah, mais moi, je pose la question.
Ah ben non, mais parce que... Alors, parfois, il y a des découvertes, si vous voulez, parce que c'est vrai qu'on voit arriver tous ces livres et qu'il y en a plein qu'on n'aurait jamais achetés ou vers lesquels on serait pas allé spontanément. Donc, moi, j'ai découvert des livres comme ça, mais la notion de bibliothèque classée, pour moi, c'est une espèce de rêve inatteignable, vous voyez, parce que faudrait que le flux s'arrête, quoi. Enfin...
Et vous avez des copains intéressants aussi Je repense à votre bibliothèque. Vous êtes très amis, notamment avec Sylvain Tesson. Vous devez avoir des dédicaces incroyables. Est-ce que cela, vous les gardez religieusement?
Alors, il y a un autre phénomène, c'est que ceux qu'on voudrait garder, on vous les pique en général. Vous voyez? Donc, il y a une sorte de... Mais tous les autres, ils restent. Et, d'ailleurs, c'est connu dans les maisons d'édition. C'est-à-dire que c'est même une sorte d'index de mesure. C'est-à-dire que vous faites vos dédicaces, puis vous arrêtez pour aller déjeuner. Vous voyez ce qui se passe. Si on vous a piqué les bouquins entre temps, c'est que ça va marcher. S'ils sont toujours là, c'est mauvais signe. Et moi, malheureusement, vous voyez, vous parlez des livres de Sylvain. Ben, les livres de Sylvain, il me reste très peu de dédicacés parce que on me les a embarqués. Voilà. Alors c'est intolérable, mais c'est comme ça.
Ouais, c'est
bon signe pour lui.
Il vous en refera. Restez avec nous, Jean-Christophe Ruffin, dans un instant, les libraires.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
La voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire. Nous partons chez Stan, Stanislas Rigaud, librairie Lamartine à Paris 16e. C'est chic. Bonjour Stanislas Rigaud.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir à la librairie Lamartine. Vous avez deux coups de cœur, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, vous vouliez faire un point d'étape sur le Goncourt 2020. Hervé Le Tellier, l'anomalie qu'on a beaucoup soutenue dans l'émission. Et vous m'avez accueilli en me disant que c'était une sorte d'immense record de vente que ce livre.
Voilà, c'était important. Le point d'étape, le mot est faible, parce qu'effectivement, l'anomalie d'Hervé Le Tellier est devenue ces derniers jours le roman le plus vendu en grand format de l'histoire de la librairie Lamartine. Donc on est hyper content parce qu'on adore ce livre. Et donc, tous ceux qui ne l'ont pas lu, bah, vous avez beaucoup de chance parce qu'il va falloir redécouvrir ce bijou. Et à tous ceux qui l'ont lu, bah, relisez-le.
Mais elle a quel âge, la librairie Lamartine?
Plus de 90 ans aujourd'hui.
Ah oui, ça fait un sacré record.
C'est un sacré record, surtout que le livre date de fin août. Donc on est très peu de temps pour le moment et il reste beaucoup encore de marge.
On a deux autres livres à évoquer, donc il faut qu'on se dépêche. Mais quand même, comment vous expliquez ça?
C'est un mélange de plein de facteurs. D'abord, le livre est très bon, ce qui est quand même déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un livre qui est, à mon avis, accessible assez jeune. On peut le lire à partir de 15 ans. Après, c'est un livre qui peut fonctionner avec des gens qui lisent, mais aussi avec des gens qui ne lisent pas. Il y a tellement de caisses de résonance, tellement d'accroches possibles que c'est un livre entre guillemets tout terrain, mais c'est une qualité en fait. C'est pas parce que malgré tout, c'est un livre avec une très forte personnalité. Donc il réussit au milieu de tous ces critères à être un livre qu'une écrasante majeure partie des gens qui achètent adorent, mais qui en plus c'est un livre que les gens adorent offrir. En fait. Et résultat, on voit les gens venir, revenir, re-revenir pour en prendre 1, 2, 3, 4, 5, ce qui est aussi une des clés.
L'anomalie chez Gallimard. Et avant d'ouvrir les micros, vous m'avez dit, à propos de vos deux coups de cœur du jour, qu'il fallait absolument que je lise un autre bijou de chez Gallimard, un livre italien.
Voilà, Gianfranco Galigarish, Le dernier été en ville, qui est donc l'édition d'un livre sorti en 1973 en Italie et qui est tout simplement un bijou de littérature italienne. On part à Rome et on va suivre les aventures et les mésaventures d'un personnage qui passe son temps, grosso modo, à pas faire grand-chose et à lire et à traîner dans Rome, ce qui est quand même un formidable destin, hein, on est tous d'accord. Et cet homme, un soir, lors d'une présentation, va tomber amoureux d'une femme, peut-être, qui elle-même va peut-être tomber amoureuse de lui. Et voilà, c'est ainsi que commence ce livre, qui est à la fois une histoire d'amour qui ne dit pas son nom, une errance dans cette ville extraordinaire qui est Rome. L'ambiance est géniale, les personnages sont baroques, on rit, on pleure, c'est un grand moment de littérature.
C'est la Grande Bellezza, en fait, le film.
C'est la Grande Bellezza des années auparavant, pas exactement le même milieu, parce que en fait, c'est des gens qui ont moins d'argent que dans la Grande Bellezza, mais c'est effectivement exactement le même principe. C'est un aller simple pour l'Italie, et mon Dieu, quel bonheur.
Il ne se passe pas grand-chose, mais c'est génial.
Exactement, c'est génial.
Deuxième coup de cœur.
Alors, chef-d'œuvre, Méridien de sang de Cormac McCarthy aux éditions L'Olivier. Alors, pourquoi j'évoque ce livre qui a quand même quelques années maintenant? Simplement parce que c'est les 30 ans des éditions L'Olivier cette année, et qui réédite en format semi-poche dans une collection absolument magnifique, leur meilleur titre. Et je voulais donc vous parler de Méridien de sang quand on est reparti. Alors, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je pars sur une île déserte. Je pars avec Méridien de sang. Pour faire court, c'est tout simplement l'Apocalypse Now du western, hein. Les aventures d'un gamin qui, à la fin du 19e, va rejoindre une bande de chasseurs d'Indiens. Donc c'est halluciné, ultra violent, mais en même temps d'une très rare beauté. C'est le grand roman de l'Amérique.
Comment vous expliquez qu'il y a autant de gens qui partiraient sur une île déserte, effectivement, avec un roman de McCarthy, pas forcément celui-là? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel chez Cormac McCarthy?
Alors, McCarthy, qui est l'auteur notamment de La Route, hein, qui effectivement a été cet incroyable succès, c'est une écriture. C'est-à-dire que moi, c'est quelqu'un, vous lisez deux lignes, vous dites, mais c'est Cormac McCarthy. Il a une puissance d'écriture, une poésie qui est à la fois extrêmement belle, mais extrêmement rude, quelque chose de totalement anodin. On est toujours un peu à la frontière, en fait, de l'équilibre grammatical. C'est-à-dire que, en fait, on a toujours l'impression que la phrase va peut-être passer dans le côté faux, entre guillemets, fausse. Il y a quelque chose d'absolument remarquable dans cette écriture qui est en même temps concassée, brutale. C'est hors du commun au vrai sens du terme. C'est un des très grands auteurs, à mon avis, d'aujourd'hui avec Don DeLillo.
La réédition donc de Cormac McCarthy, Méridien de sang, aux fabuleuses éditions de l'Olivier, et chez Gallimard, Gianfranco Caligarich, Le dernier été en ville. Merci beaucoup Stanislas.
Merci Nicolas.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1 dans un instant. Nous sommes rejoints par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
Et comme chaque semaine, on retrouve donc le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Vous avez choisi aujourd'hui un album qui s'intitule « L'étoile au cœur » de Matteo Corradini et Vittoria Facchini.
Oui, c'est un livre très beau pour aborder le thème de la Shoah aux enfants de 9 à 12 ans. Alors ce n'est pas toujours évident hein, de parler de ces thèmes aux enfants. Et là, l'auteur a choisi de partir d'un point de vue plutôt original. Le narrateur, l'étoile jaune, vous savez, celle qui était cousue sur les habits des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette étoile va raconter 10 destins d'hommes et de femmes, de vieillards et d'enfants, 10 histoires écrites comme des poèmes aussi durs qu'utiles.
C'est-à-dire 10 histoires de Juifs qui ont dû se coudre l'étoile jaune pendant la période ?
Oui, c'est exactement ça. 10 points de vue différents avec toujours ce rapport à l'étoile jaune. L'enfant, le rabbin, la professeure, le libraire ou encore le pauvre. Son poème, c'est Léon qui vous le lit.
Juif et pauvre, double infortune. Quand j'arrivais dans le ghetto, je rencontrais ces hommes-là au clair de lune. Ce fut la dernière lumière vue de mon vivant. Ma maison n'est plus là. Elle est dans la rue, en ruine, au numéro 9.
Il y a aussi le vieux, l'innocent, le fou, la violoniste et enfin la fillette, lue cette fois par Clémentine.
J'avais un nounours et deux poupées. J'avais des crayons de couleur et quelques dessins. J'avais des tresses dans les cheveux. J'avais un cheval de bois. J'avais un manteau couleur lilas. Ils m'ont donné une douche. Je ne suis plus là.
C'est un récit vraiment... Ouais, c'est lourd, c'est dur, mais en même temps vraiment bouleversant et aussi très juste, qui touche les enfants, je vous assure. Ils lisent ses poèmes et vous essayent ensuite de questions. Notons aussi la très 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 belle construction graphique de Vittoria Facchini. Aussi bien dans les illustrations, les collages et aussi cette étoile qu'on retrouve à chaque page, ou plutôt cette étoile découpée dans chaque récit. C'est vraiment un très très beau livre.
L'étoile au cœur de Matteo Corradini, Vittoria Facchini aux éditions Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
À la semaine prochaine Nicolas.
Et vous Jean-Christophe Ruffin, vous vous souvenez du premier livre, du premier roman, pas forcément jeunesse d'ailleurs, mais qui vous a marqué?
Alors récemment, à la faveur des confinements, j'ai relu Guerre et paix. Et Guerre et paix, je me suis souvenu en le lisant que c'était le premier vrai livre que j'ai lu d'une traite, entièrement. Avant, j'avais lu des petites choses, mais oui, j'ai...
Des Vous avez plus, commencé par l'Everest, quand même.
Plus bref. Non, mais justement, quand j'avais, je ne sais pas quel âge j'avais, mais j'ai le souvenir de m'être dit, bon, allez, on rigole plus, maintenant, on s'attaque à une œuvre. Et ce qui m'a vraiment... plus, c'est qu'avec cette distance du temps, parce que ça fait quand même maintenant des dizaines d'années que j'ai lu ce livre, eh bien, je me souvenais de certaines scènes, très très précisément, notamment de la scène où il lève la table, il jette la table en marbre dans son palais, là, à la figure de sa femme, etc. Enfin, il y a toutes des scènes comme ça, les scènes avec Natacha, je les ai revues, et j'ai eu l'impression d'un tunnel sous le temps, comme ça, avec une lecture très, très, très précoce, puis une lecture quand même plus que tardive aujourd'hui. Et les deux se sont croisés. Et j'ai gardé l'exemplaire du livre de poche de la lecture originelle, la première lecture, je l'ai conservée, je l'ai avec moi. Je bute le tome 2, mais je l'ai toujours.
La princesse aux petits mois chez Flammarion, c'est votre nouveau roman, Jean-Christophe Ruffin. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
À bientôt. Europe 1. C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.